Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de la violence envers les protestants en Nouvelle-France. La diffusion de ce jour fait partie d'une série de 6 émissions consacrées à l'histoire des franco-protestants en Amérique du Nord. Vous écoutez présentement la 5e émission de cette série. Je vais continuer à commenter des citations du livre de Rieul Duclos intitulé « L'histoire du protestantisme français au Canada et aux États-Unis ». Nous avons vu, lors de la 4e émission sur le sujet, que les protestants quittent la Nouvelle-France pour aller s'installer aux États-Unis, et ce, à cause de la Constitution américaine qui leur accordait la liberté de conscience, la liberté d'expression et la liberté de religion. Voici ce que nous dit Duclos à cet effet, à la page 25. « L'écho de ces persécutions arriva jusqu'aux frères établis dans la Nouvelle-Angleterre, et en 1776, ils formulèrent leur fameuse Constitution, formidable protestation qui dénonçait les agissements de Rome et affirmait la liberté de conscience. » Et ici, mesdames et messieurs, quand il dit « dénoncer les agissements de Rome », il parle ici, M. Duclos, de l'Église catholique romaine. Et donc, on voit que les protestants recherchent justement cette liberté de conscience, cette liberté de religion, cette liberté d'expression. Et je poursuis avec ce qui est écrit à la page 26. « On comprend que ces attentats à la liberté religieuse aient révolté les consciences huguenotes si délicates quand il s'agissait de questions concernant la liberté religieuse. » Leur zèle n'en était pas atteint, mais leur patriotisme se refroidissait. Ils ne demandaient qu'à vivre et à servir leur patrie. Celle-ci leur répondait non. Et donc, c'est ça, leur patriotisme, parce qu'ils aimaient s'exprimer en français. Mais leur patriotisme s'est refroidi. Pourquoi? Pas parce qu'ils méprisaient la langue française, pas parce qu'ils méprisaient les citoyens de la Nouvelle-France, parce que leur patrie leur répondait « Non, on ne veut pas de vous ». Et c'est dans ce contexte-là, dans ce contexte, dans un contexte de persécution, dans un contexte de violence, que les franco-protestants ont quitté pour les États-Unis. Pas tous. Certains sont retournés en Europe, dans des lieux qui favorisaient justement leur liberté d'expression. Certains même ont quitté pour l'Afrique du Sud. Et donc, ils ont quitté comme des missionnaires. Mais il y a un point qui est intéressant que Duclos soulève. Il nous parle du traité de Saint-Germain en Laye. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un traité assez important. Le traité de Saint-Germain en Laye a été signé le 29 mars 1632 et il a retourné la Nouvelle-France à l'autorité de la France dont l'Angleterre s'était emparée en 1629. Donc, juste pour résumer, le Québec, la Nouvelle-France, appartenait à la France. L'Angleterre s'en est emparée en 1629 et par ce traité-là, on retourne la Nouvelle-France aux Français. Le 19 juillet 1629, une flotte anglaise sous le commandement de David Kirk avait réussi à prendre le poste de traite de Québec en interceptant les ravitaillements, ce qui aura pour effet de réduire Samuel de Champlain et ses hommes à la famine. Le traité a également fourni à la France une compensation pour des marchandises saisies pendant la prise de la Nouvelle-France. Donc, on voit que, oui, il y avait un traité, il y en a qui ne l'ont pas respecté, mais l'Angleterre a dû offrir des compensations parce qu'il y avait un traité. Et ça fait partie justement de tous les conflits qu'on retrouve entre la France et l'Angleterre. Non seulement la France et l'Angleterre avaient des conflits sur le continent européen, mais on retrouve également des conflits entre ces deux nations sur le continent américain. Alors, je poursuis avec Duclos, mesdames et messieurs. Voici ce qu'il nous dit. « Le traité de Saint-Germain-en-Laye remettait de nouveau le Canada entre les mains de la France, c'est-à-dire sous la férule et le fanatisme des Jésuites et des Récollets. » Évidemment, c'est un protestant qui parle, un protestant qui écrit l'histoire des protestants, et cet aspect-là ne faisait pas l'affaire des protestants francophones, parce que la France était alliée à l'Église catholique romaine. 30 années suivirent ces événements. Toute une génération avait grandi, presque abandonnée. Pas d'école, les livres frappés d'interdits et pas de pasteur. La foi était telle qu'elle survécut en dépit de ces circonstances malheureuses. C'est là ce qui explique les remarques fort justes de Parkham dans son ouvrage intitulé « L'Ancien Régime ». Il rapporte en effet qu'en 1665, les prêtres de Québec faisaient encore du prosélytisme parmi les Huguenots qu'on avait découverts à Québec. Eh oui, il y avait encore ces tensions-là et il y avait un désir de convertir les protestants au catholicisme. N'oubliez pas, leur slogan, c'était un motto bien simple, mais un motto qui les conduisait dans une direction très précise. Une terre, une langue, une religion. Il n'était pas question d'avoir une terre, une langue, deux religions, trois religions, quatre religions. Non, non, non. C'était une terre, une langue, une religion. C'était le pouvoir à tous les niveaux. Le pouvoir linguistique, le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et si on a le pouvoir linguistique, eh bien, évidemment, on a le pouvoir culturel. Du moins, le pouvoir culturel qui touche notre langue. C'est simple, hein? Une simple phrase en trois composantes qui donnait une vision assez claire aux catholiques de l'époque. Ça, c'est le côté religieux. Mais qu'est-ce qui arrive du côté politique? Eh bien, on voit à la page 29 que Louis XIV envoyait des ordres. Écoutez bien quel genre d'ordre est envoyé par le roi. Qu'on emprisonne tous ceux qui refuseront d'abjurer ou qu'on loge des soldats chez eux. Wow! C'est assez radical. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Eh bien, Duclos nous dit qu'un grand nombre de protestants refusèrent d'acheter la paix en violentant leur conscience. Un grand nombre de protestants refusèrent d'acheter la paix en violentant leur conscience. Ça, c'est assez révélateur, mesdames et messieurs, du caractère qu'avaient les protestants de l'époque. Dans les annales de 1690, Charlevoix affirme que les officiers les plus distingués de la Nouvelle-France étaient protestants. Voici les noms des plus connus. De Louvigny, de Clermont, de Lamotte, Colombet, Desmarais, de Villiers, de Lusignan, le baron de la Houtan, le sieur d'Argenteuil, de Monseigneur, contrôleur général de la marine, les sieurs de Bonrepos, de La Brosse, Desjardins, Saint-Martin, d'Aberville, tous calvinistes donnant un très bon exemple. Et c'est ça qui était dommage, parce que les protestants, qu'on appelait calvinistes, qui étaient des Huguenots qui avaient traversé justement l'Atlantique pour venir s'installer ici, donnaient un bon exemple. C'était de bons citoyens, pour la plupart d'entre eux, pour ne pas dire la majorité d'entre eux. Mais ce qui arrive, c'est qu'on tentait de les assimiler, de les convertir, ou de tellement mettre de pression que ça les amenait à quitter. Et ce que nous dit Duclos à la page 31 est encore une fois très révélateur de la pression que pouvaient vivre les protestants à l'époque. Voici ce qu'il dit. « La censure a eu soin de faire disparaître tous les indices qui pourraient mettre sur les traces des méfaits inspirés par le zèle de l'évêque convertisseur, mais on s'est transmis de génération en génération le souvenir de ces heures douloureuses durant lesquelles il n'y avait pour les malheureux protestants d'autre alternative qu'une abjuration ou la fuite dans les colonies anglaises. » C'est ça qui est malheureux, mesdames et messieurs, c'était on poussait les protestants à s'en aller. Et c'est pourquoi on rentre dans le chapitre 2 de ce livre, c'est intéressant, on a déjà franchi le premier chapitre, et dans ce chapitre 2 qui couvre le Canada sous le nouveau régime, eh bien, on voit justement que les Français ont de la difficulté en Nouvelle-France parce que là, il n'y a pas seulement une tension entre les protestants puis les catholiques, il y a des tensions majeures avec les Anglais. Et donc, nous sommes en 1759. Il faut dire que Duclos, il se promène un peu. Hein. Il va parler d'une séquence, il va faire des liens avec une autre séquence, puis il fait souvent des liens avec différentes séquences de l'histoire parce que L'histoire, c'est pas nécessairement un courant linéaire, hein. C'est pas toujours une ligne droite. Il y a des ramifications dans l'histoire, et puis pour bien comprendre ce qui se passe, il faut faire des liens avec ce qui s'est passé, puis avec des événements, des faits, etc. Et donc, depuis 1665, 94 années ont passé sur le cadran qui marque le temps. Ce fut 94 années de persécution et de deuil. Pauvre frère sans pasteur, incapable de par la foi de se réunir pour prier en commun. On pourrait arrêter la lecture du livre ici puis se dire, bon, ben ça y est, c'est fini. Ça y est, il n'y a plus pasteur ou il n'y en a presque plus. On vient de passer au travers presque un siècle à coloniser de peine et de misère cette Nouvelle-France-là. Eh bien, on pourrait se dire, ben pourquoi il ne lance pas la serviette? Certains l'ont fait, certains ont quitté pour les États-Unis, certains ont quitté pour l'Europe, etc., et même l'Afrique. Mais le Seigneur ne les a pas laissés tomber. Il est arrivé un événement qui a donné un regain de vie aux protestants. Duclos nous dit ceci. « Aussi, quand on apprit l'arrivée prochaine de quelques missionnaires, ce fut une joie indescriptible dans toutes les familles que le jésuite n'avait pu éloigner ou convertir. » Ce renfort inespéré, donnant un renouveau de vie aux cendres que le clergé croyait parfaitement éteintes, et de nouveau l'Évangile fit des conquêtes. À la prise de Québec, nous trouvons un prêtre converti qui demande son admission dans l'Église d'Angleterre. Ça, c'est intéressant, mesdames et messieurs. Et ça a donné un regain à la communauté franco-protestante. Mais voici la suite. Lorsque la session du Canada eut lieu, le général Murray le presse de rester afin de lui servir d'interprète auprès des Français dont il ne parlait pas la langue. Nous le retrouvons en 1761 auprès du général Amherst. Quelque temps après, il est envoyé à la Nouvelle-Rochelle dans l'État de New York pour assurer les services d'une petite communauté qui était sans pasteur depuis longtemps. Mais savez-vous quoi? Cette amélioration, si modeste qu'elle fût, encouragea de nouveau le courant d'émigration qui s'était complètement arrêté à cause des persécutions dont l'écho était arrivé jusqu'à la mère patrie. C'est sûr, il y avait des tensions en France, mais il y en avait en Nouvelle-France, mais en plus, comme vous le savez, l'hiver, le froid, tous les défis que ça comporte, puis que ça comportait à l'époque. Il n'y avait pas de frigidaire à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, là. Il n'y avait pas de voiture. Pas d'avion. Et donc, à ce moment-là, pas de transport par train. Et donc, on arrêtait de se diriger vers la Nouvelle-France. Mais quand ils ont su que, oh, là maintenant, il y a des catholiques qui se convertissent, même un prêtre catholique qui s'est converti, puis là, il y a des missionnaires qui songent aller en Nouvelle-France, eh bien là, ça leur redonnait un regain, non seulement en Nouvelle-France, mais en France. Je poursuis. En 1774, 400 immigrants arrivèrent au Canada. Un certain nombre sont des protestants français. Stuart, recteur de Trois-Rivières, a conservé quelques noms. François Monnier, John Martel, John Cullen, Joseph Wattier, Jean Gustuineau, Alexandre Dumas, Henri Monnier, John Billard et Charles Vinette. Mais voici ce qui suit. La présence de ces nouveaux colons donna aux fidèles, que la persécution n'avait pas entamé, une importance qui leur valut quelques égards. Aussi, l'Église d'Angleterre fit-elle des démarches à l'étranger pour s'assurer les services de pasteurs de langue française, dont le travail, si modeste et si prudent qu'il fût, allait provoquer la haine des catholiques, d'autant plus qu'il y eut, dès le début, des catholiques qui renoncèrent aux erreurs de leur confession. Parmi ces nouveaux venus, il convient d'indiquer un prêtre, M. Vessière, qui renonça au privilège de sa charge pour exercer le ministère évangélique à Trois-Rivières, son installation eut lieu le 25 septembre 1768. Et ça, c'est intéressant, parce que l'Église d'Angleterre a fait des démarches pour s'assurer qu'il y ait des pasteurs de langue française qui viennent s'établir en Nouvelle-France. Et ce qui arrive, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des catholiques qui commence à renoncer aux dogmes de l'Église catholique, aux doctrines ou aux enseignements de l'Église catholique, parce qu'ils se mettent à lire l'Évangile ou à entendre l'Évangile, on leur présente la parole de Dieu, la Bible, et là, il y a des gens qui se détournent. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, que les persécutions n'ont pas mis à mort tous les protestants. Et les protestants qui ont persévéré en Nouvelle-France, eh bien, ont produit des fruits. Et ça, évidemment, comme le dit Duclos, il fallait qu'il y ait une œuvre de sagesse, parce que ça créait des mécontents, spécialement chez les catholiques. Mais il ne faut pas se réjouir trop vite, parce que les protestants ont une faiblesse. C'est l'isolement. Dès qu'il fut installé, M. Delisle constata que les Récollets et les Jésuites avaient su profiter de l'isolement des protestants pour les amener à la foi catholique. Toutefois, dans cette besogne qui n'était pas toujours honorablement conduite, le clergé avait montré moins de fanatisme que dans les jours passés. Ce qui arrive, c'est que de part et d'autre, il y a un désir que des gens, si on veut, du camp adverse, se joignent à eux. Mais là, il y a comme une genre de parenthèse qui se crée, qui se forme. Écoutez bien ça. Comme les protestants n'avaient point de temple, les Récollets offrirent spontanément l'hospitalité dans leur église. Le dimanche après la messe, vers les 10 heures, on annonçait le culte protestant au son des cloches. Le tambour battait et les fidèles venaient se grouper autour de leur pasteur. Ça, c'est intéressant. Une église catholique annonçait qu'il y avait une célébration protestante dans leur temple, dans leur bâtiment. Ben, on pourrait dire que c'est assez unique, n'est-ce pas? Une autre chose qui vaut la peine d'être soulignée. À Québec, les aumôniers de l'armée se succédaient dans leur charge. L'un d'eux était pasteur de l'église réformée. C'était M. de Montmolin. Et l'influence de M. de Montmolin fut très profonde. Bien des années après sa mort, les gens qui l'avaient visité rappelaient volontiers sa mémoire. Par son moyen, l'Évangile pénétra dans la famille Morin, dont les descendants honorent aujourd'hui notre protestantisme franco-canadien. M. Joseph Morin, l'un des pasteurs de l'Église presbytérienne, est professeur à l'Université McGill de Montréal. Sa femme est une des filles du père Chiniki, dont la réputation est si grande de ce côté-ci de l'océan. Mais ce qui arrive, quand on donne d'une main, il faut s'attendre à donner de l'autre. Je continue. À Québec comme à Montréal, les protestants durent accepter l'hospitalité des Récollets. Et donc, on voit que maintenant, c'est comme d'autres stratégies, d'autres tensions. Il y a eu des actes de violence. Mais après ça, le combat devient un peu plus subtil. Mais qui vont être les grands perdants de ce combat-là? Eh bien, vous l'avez deviné, ce sont les protestants. Et c'est pour ça que Duclos va nous dire à la page 39, « Comment expliquer que le protestantisme qui avait donné de si fortes preuves de sa vitalité et qui progressait généralement en Europe perdait du terrain au Canada? Car au commencement du 19e siècle, il n'y comptait plus que quelques timides représentants. Pour répondre à cette question, nous sommes obligés de remonter en arrière afin d'étudier les événements. Et c'est ce qu'on va voir demain, mesdames et messieurs. Alors, on va en parler de justement qu'est-ce qui a été la cause du ralentissement et de presque l'anéantissement de la communauté franco-protestante au Québec. Et vous l'avez deviné, mesdames et messieurs, c'est déjà le temps de clore cette émission. Si toutefois vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est Le blogueur à commercial ericlantier.net. Le blogueur à commercial ericlantier.net. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est en tout temps disponible sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir syntonisé le 92,7 FM et je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'Horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur à commercial ericlantier.net. Le Tour d'Horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'Horizon. Au revoir!